Studio Tamani, voici les informations en français.
8h à Bamako, la même heure partout au Mali. Vous écoutez Studio Tamani, mesdames, messieurs. Bonjour, voici le journal. Au sommaire de cette édition, la dégradation de la situation sécuritaire freine les aides humanitaires dans le nord et le centre du pays. Une situation qui impacte négativement les populations vulnérables de ces zones. L'implication des femmes dans la gestion des conflits est au cœur d'un atelier depuis ce lundi à Bamako. Les participants seront dotés de techniques afin de prévenir les crises. En cette période de vacances, beaucoup d'enfants suivent l'enseignement coranique. Toutefois, les pédagogues recommandent une bonne organisation de cet apprentissage. Tout de suite, le développement de ce titre avec Sikou Gadjigo, Mamadou Ouattara sur la mise en onde. La recrudescence de l'insécurité a provoqué le déplacement de 30 000 personnes à travers les régions de Tombouctou, Taoudéni, vers des pays voisins. C'est ce que rapporte le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires au Mali, OCHA. Cette situation a aussi réduit, selon OCHA, ou suspendu par endroits les mouvements des organisations humanitaires dans la zone. La situation de la sécurité alimentaire reste également alarmante au centre du pays. Maman Babakunta.
Selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires au Mali, au moins 6121 ménages, soit 33100 personnes, se sont déplacés préventivement à travers les régions de Tombouctou, Taoudéni et vers les pays voisins depuis le début du blocus imposé par les groupes armés terroristes. Cette situation a conduit de nombreux partenaires humanitaires présents dans la région de Tombouctou à limiter ou à suspendre leurs mouvements en dehors de la ville. Les personnes les plus vulnérables seront privés d'assistance humanitaire vitale. C'est le même constat au centre du pays. Dans la région de Banyangara, la situation humanitaire se détériore de plus en plus et regrette des citoyens de la localité. Malgré l'apport des organisations humanitaires, la situation alimentaire reste alarmante. Au dire des responsables des services de l'agriculture, les flux massifs des villages déplacés augmentent de plus en plus la précarité dans la région. Le retard de pluie et la situation sécuritaire sont des facteurs aggravant de cette situation.
À Ménaka, la dégradation de la situation alimentaire inquiète de plus en plus les populations. Le président de la société civile de la région regrette l'insuffisance de l'approvisionnement en denrées de première nécessité et l'afflux massif des déplacés de la région vers la ville. Sidi Barka, président de la société civile de Ménaka, est joint par Maman Babakunta.
La situation sécuritaire à Ménaka, ça va un peu. Il y a la circulation vers Gao, il y a la circulation vers Kidal. On entend peu de morts, peu d'enlèvements dans la région de Ménaka. Donc, on dira Dieu merci par rapport à la situation sécuritaire. Mais ce qu'on regrette, c'est que la circulation est un peu réduite sur certains axes. L'axe qui va vers Ndamboka, Niger, c'est par là qu'il rentre beaucoup de denrées alimentaires. Et donc, c'est pour dire que cette situation, quand même, a vu la hausse des prix. Aujourd'hui, le riz qui était à 10 000 francs, aujourd'hui, à 16 000 francs les 25 kilos. Et beaucoup de produits très rares parce que les camions de Niger ne viennent plus directement par la voie d'Andramboukan. Donc c'est pour dire que réellement la situation alimentaire est criarde.
Vous pouvez réagir à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. L'implication de la femme dans la gestion des conflits communautaires, c'est le thème central d'un atelier de renforcement des capacités des acteurs clés dans le processus de gestion de la paix. Durant plus de 2 semaines, une cinquantaine de personnes seront outillées sur de nouvelles approches pour prévenir les crises communautaires. Cette session, financée par l'ambassade de la Norvège, a débuté hier lundi à l'école de maintien de la paix à Lyoune Blondembey de Bamako. Juliette Koulibaly était à l'ouverture.
Pour le colonel-major Ismaël Ouagé, ministre de la Réconciliation, le pays ne peut sortir de la crise sans l'implication de tous ses fils.
Ces conflits ont soulevé de nouvelles formes de violence que seules des réponses intégrées peuvent apporter des solutions effectives et durables. Nous sommes tous conscients que le développement est indissociable de la sécurité et de la paix. Donc nous sommes obligés de nous réinventer pour résoudre les conflits dans nos communautés.
Pour les participantes, cette session permettra aux femmes d'intégrer la prévention et la gestion des conflits dans leurs pratiques quotidiennes.
Le développement ne peut pas aller sans la paix. Les femmes doivent se donner la main à circonscrire ce conflit qui a tant duré.
Nous allons échanger, partager pour qu'on puisse après aller appliquer dans nos communautés.
Des sessions similaires sont concomitamment organisées dans les régions de Sikasso, Mopti, Gao, Koulikoro et Bamako jusqu'au 22 septembre prochain.
Reportage signé Juliette Koulibaly. Direction à présent Nairobi au Kenya où le premier sommet des pays africains entre dans sa deuxième journée aujourd'hui. Pour l'environnementaliste Tidjani Sangaré, la réussite de ce défi requiert l'union sacrée, la mobilisation des pays africains. Selon lui, les États africains doivent veiller sur les propositions de ce colloque du Kenya afin qu'il ne soit un sommet de trop. Il est joint par Fatih Attara depuis Kenya. Il est plutôt interrogé par Fatih Attara au Kenya.
Une fois qu'on arrive vers ça, on va essayer d'aller vers une centralisation de toutes les actions produites par les différentes organisations sous-régionales. Alors cela, ça va nécessiter encore une mobilisation des experts, une mobilisation financière et une mobilisation des ressources qui peuvent contribuer à diminuer, voire même à éradiquer complètement les effets néfastes des changements climatiques. C'est un combat de longue haleine. On ne peut pas s'attendre à un résultat immédiat, mais lorsqu'on pose des actions qui s'inscrivent dans le cadre de la diminution des conséquences actuelles, on peut dire que progressivement, on va vers des solutions durables.
Tidjani Sangaré était interrogé par Fatih Attara, notre envoyé spécial à Nairobi, au Kenya. Je vous le disais dans le titre, pendant les vacances, nombreux sont les enfants qui suivent les cours coraniques. Selon les parents, cela permet non seulement de leur apprendre le Coran, mais aussi de les occuper. Pour des pédagogues, l'enseignement coranique pendant les vacances permet de stimuler la matière grise. Toutefois, ils recommandent que cela soit bien organisé. Le reportage de Fadi Talfi Maïga.
Nous sommes dans une mosquée à Kalabankoro Plateau. À 9h déjà, les enfants récitent les versets coraniques. Ils sont nombreux à venir apprendre le Coran en cette période de vacances. Ces enfants nous expliquent leur motivation.
Chaque jour, je viens pour apprendre les versets du Coran parce que je suis musulman.
Pendant 9 mois, je suis à l'école. Mais c'est pendant les vacances que je suis les cours coraniques. C'est important.
Les parents sont unanimes sur l'importance d'apprendre le Coran aux enfants, surtout à bas âge.
Ça permet aux enfants de bien se comporter.
Pendant les vacances, chaque parent doit inscrire ses enfants au cours coranique pour leur permettre de connaître la religion.
En dépit des difficultés qu'il rencontre, Aboubakar Djakité, maître coranique, se réjouit de sa mission.
On a à peu près 100 élèves âgés de 3 ans et plus. Nous sommes confrontés à des difficultés dans l'enseignement, mais c'est aussi bénéfique.
Les cours coraniques pendant les vacances n'ont pas d'impact négatif sur les enfants à la rentrée, selon Dr Seydou Loua, pédagogue.
Ces cours coraniques, non seulement ne durent pas dans la journée, ça peut aussi l'aider effectivement à rester dans le carcan effectivement de l'apprentissage.
Initier l'enfant au Coran est important chez les musulmans, affirment des parents. Et pour ces derniers, les vacances sont le moment propice.
À présent, la rubrique Zoom sur aujourd'hui, on s'intéresse aux croyances autour de la chèvre. Si c'est un animal élevé en nombre au Mali, force est de reconnaître qu'il fait face à beaucoup de préjugés dans la société. Aïssa Tadjara.
Vous avez sûrement entendu cela. D'après certaines croyances au Mali, percuter une chèvre en circulation procure de la chance. Soit vous allez avoir une grosse somme d'argent, soit vous allez avoir des opportunités pour prospérer. Le lait de chèvre rend intelligent, surtout quand on le donne à un enfant durant ses premières semaines. Il est également dit que la viande de chèvre aurait des effets néfastes sur les relations humaines. Lorsqu'on mange la viande de chèvre en groupe, il n'y aura plus d'entente entre vous. Cette croyance est désidérée dans le fait que la chèvre fait trop de bêlements, c'est-à-dire trop de cris. Pour certains, la viande des chèvres dégage une odeur qui incite beaucoup de personnes à ne pas en manger. Vrai ou faux? En tout cas, ces croyances sont fortement ancrées et certains y croient fermement.
Et c'est tout pour ce journal. Vous pouvez le retrouver ainsi que toutes les productions de Studio Tamani via l'application Studio Tamani disponible sur Play Store. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite après le magazine, Ce seront les infos en Bamanankà avec Idrissa Sako. Sekou Gadjigou a eu le plaisir de présenter cette édition mise en onde par Mamadou Ouattara. Des Maliens peu satisfaits de la distribution de la justice. C'est le thème de notre magazine Mali Courage d'aujourd'hui. Au Mali, les décisions de justice sont généralement contestées. C'est un constat des observateurs. Une large partie des citoyens l'impute au fait que la justice n'est pas accessible à tous. Depuis l'avènement de la transition, des voix s'élèvent à travers le pays pour exiger une justice équitable, proche des justiciables. Elles appellent les acteurs à respecter les principes de la justice, notamment la gratuité de la justice. Alors, quelle justice dans le Mali Courage? Lali Tangara a tendu le micro à quelques acteurs dans ce magazine Mali Courage, réalisé grâce au concours de nos correspondants locaux.
Atteindre les objectifs du Mali Courage rime avec une justice indépendante et juste. En tout cas, c'est ce qu'estiment ces citoyens rencontrés à Bamako, Yelimane et Gao. Pendant que certains affirment que la justice est à la solde du plus fort, d'autres notent des améliorations dans l'appareil judiciaire local.
La justice est corrompue pour la simple raison que, au lieu de chercher à savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé, on regarde d'abord la position du plaignant.
En fait, à Yelimane, il ne tranche pas la justice comme elle se doit. C'est les plus offrant qui ont gain de cause sur ceux qui n'ont pas les moyens.
Il y a eu des avancées en matière de justice.
On ne peut pas parler de Mali Courage tant qu'il n'y a pas un changement à tous les niveaux, que ce soit dans le domaine de la justice ou dans les autres domaines. Il faut d'abord que la justice soit indépendante et qu'elle travaille sans aucune contrainte.
La justice traditionnelle est aussi une alternative pour certaines communautés au Mali, compte tenu du contexte d'insécurité. Elle a son rôle à jouer dans la gestion des conflits, notamment communautaires. Oumar Togola, coordinateur des chefs de village et quartier de Ségou, souligne qu'une affaire n'est traduite en justice que lorsque les tentatives de réconciliation échouent à leur niveau.
Maintenant, tout ce qu'on fait dans les quartiers, villages ou fractions, ça doit être venir d'abord au niveau des vestibules avant d'aller louer. Donc, nous, les chefferies traditionnelles, nous sommes obligés de travailler avec la population, que ce soit les associations, l'administration ou les hommes politiques dans nos quartiers, pour ranger les stations traditionnellement.
À quelques kilomètres de Ségou, au centre du pays, la société civile de Bankassa exhorte les juges à répondre aux besoins de la population en matière de justice. En même temps, elle invite ces dernières à ne pas influencer les décisions de la justice. Khalifa Guindo, membre de la société civile à Bankassa.
Nous demandons aux juges et aux citoyens d'être équitables dans les prises de décisions de justice, qu'il n'y ait pas de corruption, que les juges respectent leurs paroles données, que le justiciable soit riche ou pauvre, fasse preuve d'honnêteté, car une affaire mal jugée peut être source de tensions.
Pour les juristes, les décisions de la justice ne sont pas parfois comprises par les citoyens, pour de multiples raisons. Mamadou Guissé, juriste de profession, indique aussi que les juridictions sont éloignées de la population, donc difficile pour eux de la saisir.
Dans la plupart des cas, vous venez avec un problème, vous devant le juge, vous avez les faits devant vous, vous avez raison selon vous, mais vous n'avez aucun moyen de prouver que vous avez raison. Or, le juge statue suivant les preuves. Aujourd'hui, les juridictions sont en nombre insuffisant. Certaines juridictions sont très éloignées du justiciable. Et voilà pourquoi les justiciables peinent à saisir les juridictions pour obtenir justice.
Les citoyens, tout comme la société civile, recommandent aux autorités de promouvoir un système judiciaire équitable et accessible à tous. Les légitimités traditionnelles rappellent pour leur part que la justice traditionnelle a encore sa place dans le Mali Courage. Elle pourra contribuer à la résolution des conflits communautaires, selon elles.